Le nombre de nouveaux cas chaque jour a diminué. Oui, le nombre de cas total a quand même augmenté un peu. Alors oui, c'est un excellent signe. Évidemment, c'est pas particulier à la Gaspésie. C'était le cas dans l'ensemble du Québec. On a l'impression qu'on arrive à un moment où on se stabilise un tout petit peu et on espère que ça va durer, que ce n'est pas une pause temporaire.
Oui, parce que qu'est-ce qui fait que ça va définir ou ça va devenir un plateau, justement? Est-ce que ça ressemble à ça, un plateau, lorsqu'on a seulement 2, 3 cas, 2 ou 1 par jour? Expliquez-moi un peu ce qu'on voit ici chez nous.
Oui,
là.
Ouais. Exactement. Dans notre région, ça pourrait être ce qu'on appelle un plateau, là, où autrement dit, la courbe est relativement plate. On a toujours à peu près le même nombre de nouveaux cas. Donc, ce serait ce qu'on appelle un plateau. Puis, si jamais le nombre de nouveaux cas diminuait, ben on retomberait d'un autre côté où la courbe s'abaisserait tranquillement. Alors, c'est ce qu'on cherche à faire depuis le début. Quand on parle d'aplatir la courbe, là, c'est ça. C'est d'arriver à une espèce de stabilité des nouveaux cas. Puis, peu à peu, ben commencer à décroître le nombre de nouveaux cas comme ça.
Est-ce qu'on peut dire qu'on est arrivé au plateau ou il y a encore, on est encore trop tôt pour dire ça?
C'est définitivement trop tôt pour le dire. Ça pourrait être juste une petite pause puis ça peut recommencer à monter. Alors, il faut observer la semaine prochaine là, qu'est-ce qui va se passer.
Donc oui, combien de temps, combien de jours, comment vous calculez ça pour déterminer si on est arrivé au plateau?
Bien, on pourrait être assez confiant si on passe encore une semaine comme ça, là, on sera assez confiant qu'on y est arrivé. Mais comme c'est un phénomène nouveau, toute cette épidémie-là, on peut jamais rien garantir.
Alors, une semaine quand même importante pour la situation chez nous, de voir ces chiffres-là. Ça va être quand même
oui,
4-5 jours. Oui, hein, c'est ça.
Et d'où l'importance aussi de maintenir les mesures qui nous ont permis d'arriver à ça. Parce que finalement, si on est arrivé à un ralentissement important de la contagion au Québec, c'est parce que les gens respectent toutes les consignes d'éloignement physique, le fameux 2 mètres, nos lavages de mains, nos visites virtuelles à nos personnes plus vulnérables. Tout ça contribue à maintenir cet aplatissement de courbe là, qu'on commence à voir arriver.
Parlons un petit peu des CHSLD. Ça a fait beaucoup parler durant la fin de semaine. Quel est le portrait de situation chez nous dans les deux qui nous préoccupent dans la baie des Chaleurs, le Maria et Saint-Joseph?
À l'intérieur des établissements, du côté de Saint-Joseph, c'est un petit peu actuellement en développement. On a peu de cas, mais on les suit beaucoup. On s'assure que tous les travailleurs et tous les résidents sont testés et on suit la progression là, vraiment très, très attentivement. Ça semble pas avoir la même ampleur que ce qui est arrivé avec notre résidence de personnes âgées là, de Maria. Puis de ce côté-là, c'est plus tranquille, c'est plus stable à l'intérieur. C'est juste les répercussions à l'extérieur qui continuent tranquillement à s'étendre. Mais comme on l'a dit, il y a vraiment très, très peu de cas de nouveau. Mais quand même, ça a été un événement là, qui a fait gonfler beaucoup nos chiffres dans cette région-là.
Quand on parle de la résidence Saint-Joseph, on avait de la difficulté, ou je sais pas, j'ai cru comprendre que c'était pas, on n'avait pas déterminé l'origine. Est-ce que c'est fait maintenant ou?
Non, toujours pas. On n'a pas réussi à vraiment identifier si c'est une résidente ou un travailleur qui a pu faire rentrer le virus dans la résidence. On continue toujours à recevoir des résultats, donc on continue l'enquête par rapport à ça. On n'a pas effectivement encore identifié comment une résidente a pu être contaminée.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux résidences?
Est-ce qu'il y avait des... C'est possible, tout ouais. Est possible, mais on n'a pas rien trouvé de lien actuel. Voilà.
Bon, et au Québec, on a vu ce qui s'est passé avec la résidence Héron. On parlait de 40 résidences non conventionnées. Est-ce que chez nous, en Gaspésie, aux Îles, ça existe, ce type de résidence-là? Expliquez-nous si...
Non, on n'a pas de résidence de CHSLD non conventionnée. Ce sont tous des CHSLD, soit publics, soit conventionnés, que nous avons ici. La différence entre les deux, entre les conventionnés et non conventionnés, c'est essentiellement une question de de subventions et de règles. Les conventionnés sont soumis à des contrats, finalement, avec le ministère. Et donc, ils reçoivent des subventions. Et en contrepartie, les loyers sont fixés d'avance. Ils ne peuvent pas dépasser tel et tel niveau. Et puis, il y a aussi des règles de fonctionnement, de nombre de personnes qui doivent travailler. Il y a des ratios. Tandis que les non conventionnés, ben, c'est des entreprises totalement privées. Alors, ils peuvent demander le loyer qu'ils veulent à leurs résidents. Et puis, ils gèrent totalement leur main-d'œuvre et leur façon de faire.
OK. Donc, on comprend que du côté non conventionné, la question du personnel, il n'y a pas d'obligation comme dans le conventionné qu'on a chez nous. Si c'est le cas dans les résidences privées, on a quand même des obligations en matière de personnel, de nombre de personnes qui travaillent pour les résidents. Là.
Mmh. Oui, oui.
Est-ce que, bon,
c'est
même avec...
appelle la convention.
Oui, et voilà. Merci. Même avec cette situation-là, est-ce que du côté du CIS, là, on va changer notre façon de faire par rapport aux résidences pour personnes aînées? Est-ce qu'il va y avoir plus de restrictions, plus de personnes? Comment ça pourrait se passer?
Oui, mais même avant ce qui se passe à Montréal, nous, ne serait-ce qu'avec l'expérience qu'on a eue avec la résidence de personnes âgées, on a référé vraiment l'ensemble de nos, je dirais pas contrôle, mais notre surveillance et notre appui à toutes les résidences pour personnes âgées du territoire. Du côté des résidences pour personnes âgées qui sont du côté du privé, on a une direction là sous la direction de M. Gendron qui s'assure de mettre en place des visites beaucoup plus régulières. Il y avait déjà des appels qui se faisaient régulièrement, mais maintenant il y aura même des visites là, pour s'assurer que toutes les mesures sont bien en place. Et les mesures ont été renforcées aussi pour tous les CHSLD. Donc, effectivement, on a eu l'expérience de ce qui arrive quand on a un cas dans une résidence. C'est vraiment des personnes très vulnérables et ça flambe très rapidement. Donc, on ne devrait pas se permettre que ça arrive encore.
Au niveau des visites, c'était pas commencé, donc ça va emboîter le pas cette semaine. Expliquez-moi un peu, est-ce qu'on sait comment ça va fonctionner ou qu'est-ce qui va être vérifié? Qu'est-ce que vous...
Pour aller dans le détail, il faudrait interroger Jean-Luc Gendron. Je pense que c'est lui qui est la meilleure personne pour expliquer comment ils vont opérationnaliser ça. Moi, j'ai juste su qu'ils commençaient cette semaine à mettre en œuvre ce qu'ils avaient planifié.
OK. Donc, parfait. Puis avant ça, qu'est-ce qui s'était fait, dans le fond? Tu sais, depuis...
Ils faisaient des appels deux fois par semaine dans chaque centre. Okay.
Est-ce qu'on manque de personnel? Est-ce qu'il y a du personnel qui va être ajouté dans les autres CHSLD ou résidences privées pour venir en aide au personnel déjà présent, outre ce qu'on sait du côté de Maria, là, puis tout ça?
De façon générale, oui, parce que c'est le mouvement qui est amorcé dans l'ensemble du Québec et on y participe, permettre d'avoir plus de personnel, plus d'infirmières. Il y aura des infirmières en protection des infections, en contrôle des infections qui vont être déployées davantage que ce qu'il y avait déjà. Maintenant, encore là, pour le détail, tu vas avoir plus d'informations avec soit Jean-Saint-Pierre, qui est la direction des personnes en perte d'autonomie.
Okay.
Et Jean-Luc qui s'occupe des résidences pour personnes âgées.
OK, je termine avec le gouvernement qui a annoncé en fin de semaine aussi au niveau des commerces, services essentiels. S'est allongée un peu pour permettre une certaine reprise, ou en tout cas, il y avait des questionnements par rapport notamment à la construction de logements, de maisons. Donc, il y a certains commerces là, qui vont réouvrir. Comment vous voyez ça, cet aspect-là, vous? Et dans ce contexte-là aussi, où on n'a comme pas beaucoup de chiffres, est-ce que vous avez des craintes aussi par rapport à un relâchement de la population?
Bien, la réouverture ne veut pas dire que la bataille est terminée. Puis, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on a acquis déjà comme ralentissement de la contagion est dû à toutes les mesures qu'on continue à exercer là, en termes de distanciation physique, en termes de lavage de mains. Alors donc, c'est clair qu'en ouvrant d'autres commerces, il faut que d'abord toutes les mesures qui ont déjà été prévues pour éviter la contagion à travers ces commerces-là soient mises en œuvre. Donc, nos équipes de santé au travail vont collaborer étroitement avec les employeurs et puis éventuellement les travailleurs si on avait des grosses entreprises, des syndicats. Mais pour que toutes ces mesures soient vraiment mises en place correctement, et puis ben pour protéger tant les travailleurs que les clients éventuels là, qui vont se présenter dans ces commerces-là.
OK. Petit point, juste en terminant, Dr. Yves Bonnivigé, la situation du côté de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Je sais qu'il y a eu des cas dans les usines, autour, là. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça a l'air d'être
Ben, c'est sûr que quand un cas se déclare dans une entreprise, c'est toujours un peu inquiétant, tant pour les travailleurs que pour les employeurs. Alors, toutes les mesures là, qui avaient été prévues sont révisées. Tous les plans sont en révision. Nos équipes travaillent étroitement avec les propriétaires actuellement pour les aider à s'assurer que toute la. Ces mesures-là sont correctement mises en place pour éventuellement reprendre les opérations. Ces mesures-là peuvent être appliquées et normalement devraient donner des bons résultats en termes de protection de l'infection. Ça ne veut pas dire qu'une usine qui les applique tous n'aura jamais d'infection, parce que les gens sont dans la communauté, ils peuvent attraper leur infection n'importe où, mais au moins, s'il y avait une infection, elle serait rapidement limitée. Et puis, ça n'empêcherait pas de continuer les opérations, par ailleurs.
Dr. Yves Bonnivigé, directeur de la santé publique, merci beaucoup pour cet entretien. On se reparle bientôt.
Oui, bien sûr.